Alors, on va laisser les enfants descendre. Ce matin, nous allons prier que la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs. Éternel mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous donne sagesse, ta parole qui nous touche et qui nous transforme. Donc, ouvre nos cœurs, Seigneur, éloigne de nous toute distraction afin qu'on puisse vraiment entendre ce que toi, tu veux nous dire aujourd'hui. Dans le nom puissant de Christ. Amen. Donc, ce matin, je dois commencer avec une mise en garde. On va parler d'un texte dans l'Écriture. On va lire, en fait, un texte qui est quand même assez long. C'est une histoire très difficile. C'est plus ou moins un sujet pour les enfants aujourd'hui. C'est vraiment un sujet assez profond, du moins tiré d'une histoire là, qui peut peut-être aussi faire surgir des émotions là, chez quelques personnes, soit parce que vous avez le cœur très sensible, parce que vous-même ou un proche avez passé par une situation similaire. Donc, si jamais aujourd'hui, à travers ce que vous entendez, il y a quelque chose qui vraiment réveille des choses en vous et vous avez besoin d'en parler, sentez-vous à l'aise là, de venir me voir, de venir voir Marc après ou de nous contacter durant la semaine. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous entendre et ça va nous faire plaisir également de pouvoir vous accompagner ou vous diriger là, vers les services pertinents. Donc, c'était ma mise en garde ce matin, là, alors qu'on commence avec ce texte-là. Mais on va commencer un peu plus léger, là. On va essayer d'entrer un petit peu dans le sujet. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a trois objets là, sur l'écran. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître ces trois objets-là? On a une encre, on a une bouée et on a un plat de plastique, un genre de petit Tupperware, pas de couvert. Alors là, je veux vous inviter avec moi. On part en voyage. On est sur un bateau et puis on est dans la grande mer. Vous regardez du plus loin que vous pouvez d'un côté, de l'autre. Vous faites un 360 partout où vous regardez. Vous ne voyez pas de rivage. C'est la mer, hein? Les vagues sont déchaînées. Et là, tout d'un coup, vous tombez dans l'eau. Mais moi, je suis sur le bateau. Je peux vous lancer un de ces trois objets-là. Lequel vous aimeriez que je vous lance? La bouée, Francine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense d'autre chose? Non? OK, on est correct. On s'entend qu'on veut une bouée. Bien, la vie, c'est un petit peu comme ça. La vie, parfois, ça nous amène dans un terrain où on ne touche pas le fond, où il y a les vagues, c'est dangereux, on a besoin d'aide. Et l'aide dont on a besoin, en fait, ce n'est pas n'importe quelle aide. On a besoin d'une bouée. On va lire un texte aujourd'hui. On va jouer à un jeu, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent « Où est Charlie ?» Est-ce que vous êtes familier avec ça? Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que « Où est Charlie? », c'est une série de livres pour enfants, pour adolescents qui existent. Et on voit peut-être un petit derrière Charlie. Charlie, c'est le personnage qui tient la pancarte. Et il y a plein de dessins vraiment compliqués et tu dois trouver Charlie. Donc, il y a plein de choses qui ressemblent à Charlie, mais qui ne sont pas Charlie. Et toi, tu dois vraiment travailler pour être capable d'identifier ce matin à travers le texte. Ce matin, on va faire un petit peu la même chose dans un texte biblique. Fait que je vous fais travailler ce matin à travers le texte qu'on va lire. Vous devez m'aider à trouver dans le texte trois types de personnes ou trois types d'amis. Donc, un ami, hein, c'est pas nécessairement comme on pense nécessairement en général quand on pense à un ami, on pense à quelqu'un qui est pas nécessairement de notre famille. Peut-être qu'on a connu à l'école ou qu'on a connu durant notre enfance. La manière dont je veux utiliser « ami » en ce moment, ça englobe aussi la famille. Donc, le caractère d'un ami, c'est quelqu'un qui est capable d'être présent envers toi. C'est quelqu'un qui te donne peut-être des conseils, qui parle à ta vie. Et donc, on va lire le texte et je vous invite à prêter attention dans l'histoire qu'on va lire à trois personnages. Je ne vous dis pas c'est lesquels, mais je vous demande de les cibler. Donc, on va commencer avec une petite description. Il y a un ami qui est le type d'ami ancre. Donc, si on pouvait résumer le style de cette personne-là, c'est « on est là pour t'aider à t'enfoncer. Avec moi, tu vas toucher le fond. » Un peu hein, avec l'idée de l'ancre. Donc, c'est quelqu'un qui, dans ta vie, va t'amener à t'enfoncer, d'aller plus loin dans ce qui est dangereux pour toi. Le deuxième type d'ami, c'est l'ami plat de plastique que j'appelle. Donc, il n'est pas là quand tu as besoin de lui. Il ne te sert à rien. Il ne va pas nécessairement t'entraîner vers le bas, mais il ne t'aide pas à garder la tête en dehors de l'eau non plus. Donc, troisième type de personne que je veux que vous trouviez. Et finalement, le troisième type, c'est l'ami boué. Donc, je vais être là quand tu vas avoir besoin de moi, je vais t'aider à ne pas t'enfoncer, je vais t'aider à garder la tête hors de l'eau. On va les définir un petit peu plus tard dans les Écritures, mais en gros, là, c'est l'image que je veux vous donner. Et donc, on va aller dans notre histoire maintenant où on voit ce trois types de personnes-là. Le texte qu'on va lire est tiré de 2 Samuel, au chapitre 13, les versets 1 à 22. Donc, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Shimea, le frère de David, donc c'est également son cousin, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. » Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux, et qu'elle me le serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit la pâte, elle la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. » Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi. Il ne m'empêcherait pas d'être à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle. Et il la viola, il coucha avec elle. Puis, Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore qu'il ne l'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, n'augmente pas en me chassant le mal qui m'a déjà été fait. » Il refusa de l'écouter. Amnon, appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi et qu'on la mette dehors. » Et il ferma la porte derrière elle. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'est en effet la tunique que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? » « Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Ce texte-là, c'est la parole de Dieu. C'est peut-être la première fois que vous entendez ce texte-là lu dans une église. C'est une histoire qui est très détaillée. Vous savez, toutes les histoires dans la Bible n'ont pas autant de détails. Et je pense que quand Dieu met une histoire, c'est pas pour rien qu'il présente cette histoire-là dans sa parole. Même si Absalom invite à se taire, la Bible donne une voix à Tamar. La Bible donne une voix à son histoire. Donc, si on revient un petit peu derrière aux trois types d'amis, êtes-vous capable de m'aider à identifier qui est qui dans cette histoire-là? Des idées? Qui est-ce qui est une ancre dans ce texte-là? Qui est-ce qui amène quelqu'un à s'enfoncer dans le péché? Jonadab, oui, effectivement, le conseiller d'Amnon, il lui dit, il lui explique comment il peut mettre en pratique le péché auquel il songe. Oui. Avez-vous vu un plat de plastique dans l'histoire? Quelqu'un qui n'est pas du tout aidant? Absalom, le frère de Tamar. Hein, tais-toi, prends pas cette affaire trop à cœur, c'est ton frère. En quoi c'est une justification? Aucunement. Donc, il n'aide pas du tout Tamar. Qui est la bouée dans l'histoire? L'héros de l'histoire. Avez-vous été capable de voir ce héros-là? Qui est-ce qui essaie d'aider quelqu'un à ne pas s'enfoncer dans le péché? Ouh, elle n'est pas évidente celle-là, hein? Tamar, effectivement. Non, mon frère, on n'agit pas comme ça. Tu vas devenir ignoble. Va pas plus loin dans le péché. Donc, elle n'a peut-être pas réussi à convaincre son frère, mais elle a démontré le caractère d'un ami. Et en fait, dans cette histoire-là, j'ose dire que c'est l'héroïne de l'histoire. Parce que même David, lui, il est fâché, mais il dit rien. Il fait rien. Et même, on pourrait lire aussi dans la Bible que c'était parce qu'il aimait son frère Samnon et c'était son aîné. Donc, ah, c'est mon aîné, c'est le prochain roi, donc je fais rien. Mais Tamar se montre une bouée. Elle se montre une bouée dans ce texte-là. Je veux que nous puissions regarder dans la parole de Dieu. Donc là, on a un exemple concret. Mais qu'est-ce qu'un mauvais ami dans la parole de Dieu? Un mauvais ami, c'est quelqu'un qui ne t'aide pas à combattre tes tendances pécheresses. Vous savez, Dieu nous donne le choix. Et dans cette histoire-là, quand je lis la Bible, des fois, j'aime bien penser qu'il y avait une version différente. Pourquoi je dis qu'il y avait une version différente qui aurait été possible? C'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de tomber dans le péché ou pas. Donc, si Amnon avait eu un ami qui n'était pas une ancre, hein, ben, peut-être que cet ami-là aurait remarqué que ça n'allait pas bien et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a dit « Non, ça ne va pas, là. Amnon, ta sœur, franchement, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Non, mais t'es en train de devenir fou, là. » Il aurait tenté de le raisonner, ou il l'aurait amené vers le roi, ou il aurait protégé Tamar. Donc, un bon ami, c'est quelqu'un qui nous aide à combattre le péché. Contrairement à un mauvais ami. Un mauvais ami, c'est quelqu'un qui est spectateur de ton malheur. Donc, vous voulez savoir à quel point Jonadab, c'était un mauvais ami? Si on continue à lire l'histoire, voici ce qu'on lit. Que Jonadab dit, « Ah, il y a juste Amnon qui est mort, en fait. Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon a violé sa sœur Tamar. » En passant, je savais que Amnon allait se faire tuer par son frère Absalom, mais j'ai rien fait. Quel bon ami! Si vous avez un ami qui vous aide à tomber dans le péché, pensez pas qu'il va être là pour vous aider après, là. Il sera pas là. Et finalement, ce qu'on voit aussi, c'est un mauvais ami ne t'aide pas à pardonner et à surmonter les conséquences du péché. Donc là, ça paraît mal sur l'écran, mais on a l'encre et le plat de plastique. Donc, on a dit à Absalom, il ne sert pas à grand-chose auprès de sa sœur. Et il lui dit, « Ah, pense pas à ça, hein, c'est ton frère, oublie ça. Fais pas une grosse affaire avec ça. Fais pas une grosse affaire avec ça. » Pour Tamar, ça voulait dire fort probablement dans sa culture qu'elle ne pourrait pas se marier. Et la Bible nous dit qu'elle va vivre désolée dans la maison de son frère. Elle va toujours porter cette souffrance-là en elle. Donc, son frère ne l'aide pas à pardonner. Il ne l'aide pas à surmonter les conséquences du péché. Il essaie de lui faire croire qu'en fait, c'était rien ce qui lui est arrivé. Et ça, ce n'est pas un bon ami. La Bible nous dit que l'ami véritable recherche ton bien-être plus que ton confort. Voyons quelques exemples dans les Écritures. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Si vous avez, frères et sœurs, seulement des amis qui vous disent ce que vous aviez envie d'entendre, si vous repartez jamais en vous disant « ouais, peut-être qu'il y a raison, peut-être que j'ai besoin de changer ça dans ma vie », peut-être que ce n'est pas un bon ami que vous avez. La Bible nous dit également, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Je ne sais pas si vous avez déjà aiguisé des couteaux là, comme ça. Là. Hein, zing, 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 ce n'est pas agréable pour les oreilles. Hein, ce n'est pas agréable d'être limé. Hein, y a des choses qui ont besoin d'être ôtées, qui sont mauvaises. L'homme s'aiguise au contact de son prochain, devient meilleur. L'ami véritable est présent dans les souffrances et dans tes erreurs, même dans ton péché, en fait. La Bible nous dit, « Il vaut mieux être deux que tout seul. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. » Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Vous avez probablement souvent entendu ce passage-là cité dans les mariages, hein, « La corde à trois brins ne se rompt pas facilement ». Eh bien, on l'utilise souvent dans le mariage avec l'espoir, en fait, que les couples soient vraiment de bons alliés, de bons amis, mais aussi parce que c'est une image là, de l'homme, de la femme, de Dieu au milieu d'eux. Mais en fait, littéralement, dans le texte, on ne parle pas de l'image chrétienne de l'homme, de la femme et de Dieu, mais on parle vraiment de trois caractéristiques particulières d'un ami. Et là, vous en voyez une ici, qui revient dans notre texte. Hein? En cas de chute, malheur à celui qui n'a pas personne pour le relever. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit sans personne pour nous relever. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Très-Haut, du Tout-Puissant. La Bible nous dit que l'ami aime en tout temps, hein, et qu'il va être présent même si tu te détournes de Dieu. C'est ça être un ami selon le Seigneur. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, il devient encore plus proche de toi. C'est ça une bouée, un ami qui est une bouée pour toi dans ta vie avec le Seigneur. Il y a différents niveaux d'intimité dans notre marche avec le Seigneur. Hein, il y a notre relation avec Dieu, il y a l'amitié, il y a les petits groupes, il y a l'Église. Je ne sais pas si vous appartenez à chacune de ces catégories-là, mais une catégorie qui est souvent négligée dans l'Église, c'est la catégorie de l'amitié. Hein, on voit un peu l'amitié comme étant quelque chose d'optionnel. Et c'est génial qu'on peut avoir ce genre d'amitié-là profonde dans son mariage ou avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais gloire à Dieu, Dieu veut pourvoir pour chaque personne. Que vous soyez dans un mariage qui est satisfaisant, où vous pouvez trouver un bon ami, que vous soyez dans une famille où vous pouvez trouver ce genre d'amis-là, ou pas. Dieu a un plan pour nous, que dans l'Église, nous soyons capables de nous supporter de manière plus intime. Quand je regarde ces cercles d'intimité, peut-être l'analogie que je peux vous donner, c'est celle d'une carte de débit. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une carte de débit? Oui, tout le monde a une carte de débit. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont connu les cartes de débit avant qu'il y ait les petites puces qu'on pouvait taper? Tu sais, dans le temps là, qu'il fallait rentrer son NIP, là. Ouais. Bien, dans le temps qu'il fallait rentrer son NIP, là, ou quand vous avez à rentrer votre NIP, même si vous devez taper, des fois, il faut rentrer son NIP, est-ce que vous pouvez mettre 3 chiffres sur 4 de votre NIP? Est-ce que ça va fonctionner? Combien de fois vous avez à essayer? Est-ce que si vous vous astinez avec la machine, là, que vous lui parlez un peu, que vous laissez lui raisonner, de lui dire « Oui, mais gars, j'ai 3/4, ça va bien, tu devrais me laisser prendre mon argent quand même, voyons, tu sais, on argumente comme ça. » Pensez-vous que ça va marcher? Non. Eh bien, des fois, dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin de tous ces niveaux-là d'intimité. Donc, on a besoin de faire de l'espace dans notre vie pour être capable d'avoir tous ces niveaux d'intimité-là. Notre intimité avec Dieu, elle est essentielle. Notre vie d'église, elle est essentielle. Notre participation à un petit groupe aussi, mais nos amitiés. D'avoir une personne qui est une bouée dans ta vie. Lorsque tu vas passer par des événements traumatiques, qui va être là pour prier avec toi, pour pleurer avec toi, pour rester avec toi. Lorsque tu vas être tenté de tomber dans le péché, on est-tu tenté, nous, comme chrétiens, parfois, de tomber dans le péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais tenté? Je suis contente qu'il y ait personne qui lève la main parce que là, je dirais, ben là, t'es tombé, t'es hypocrite. On est tous tombés dans un état où on se dit, est-ce que vraiment je vais faire la volonté de Dieu? Bien, merci Seigneur qu'on ait des amis qui sont capables de nous ramener dans le droit chemin, de nous donner des bons conseils pour éviter de tomber dans le péché. Merci mon Dieu. Donc ce matin, on ne regardera pas tous ces niveaux d'intimité-là, mais on est vraiment dans le jaune, là. On parle de l'amitié spirituelle. Donc je vous pose la question, quel genre d'amis avez-vous? Si vous deviez là, penser aux gens dans votre vie là, qui sont les plus près de vous, là, est-ce que vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous amènent un peu plus loin dans le péché, qui vous apprennent un peu plus comment contourner les règles dans la parole de Dieu? Est-ce que vous avez des gens qui vous observent en mener votre vie, mais qui disent rien, qui vous remettent jamais en question, qui vous amènent jamais à vouloir aller plus loin avec le Seigneur? Ou est-ce que vous avez des gens qui sont là pour vous quand ça va pas bien, qui sont prêts à prier avec vous? Qui sont prêts à vous aider à ne pas vous enfoncer. Quel genre d'amis avez-vous dans votre vie? Et ce matin, vous n'aurez peut-être pas le temps de passer en revue toutes les gens que vous avez dans votre vie, mais rapidement, je suis sûre qu'il y a des choses qui viennent dans votre cœur. Peut-être ramener cette question-là avec vous à la maison. Cultiver des amitiés spirituelles profondes, c'est un défi. Et plus qu'on avance, en fait, dans la vie, plus que parfois ça peut être difficile. Hein, quand on est à l'école primaire, c'est facile. On a comme presque juste ça à faire, de se faire des amis. Les amitiés se tissent facilement. Mais lorsqu'on avance dans la vie, parfois, c'est pas facile. Et j'ose même dire que parfois, dans l'Église, c'est pas toujours facile. Mais Dieu nous appelle à cultiver des amitiés spirituelles profondes. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il faut pas attendre que ça aille mal pour commencer. Amnon était déjà très mal en point. Peut-être que s'il avait recherché une amitié, une bouée dans sa vie un peu plus tôt, il aurait été moins susceptible d'écouter le conseil de Jonadab par rapport à sa sœur. C'est pas juste quand ça va mal qu'il faut chercher les amitiés. C'est en tout temps. Hein? Si vous vous souvenez juste de 3 chiffres sur 4 de votre NIP, ça serait bien que vous le sachiez tout de suite. Attendez pas d'être à la caisse avant de le chercher. Cherchez tout de suite. Amnon n'avait pas cultivé de bonne amitié et peut-être aussi que Tamar n'avait pas eu l'opportunité d'en avoir. Hein, quand le texte nous dit qu'elle va vivre désolée dans la maison de son frère, même si elle savait comment être une bonne amie, même si elle a modelé ça pour son frère, ça ne veut pas dire qu'elle l'avait pour elle-même. Peut-être ce matin, vous êtes un excellent ami. Peut-être vous êtes à cœur ouvert avec les gens autour de vous. Vous voulez vraiment les aider à ne pas s'enfoncer dans le péché. Vous voulez vraiment les aider à surmonter les difficultés qu'ils vivent. Mais vous aussi, vous avez besoin de recevoir. Depuis maintenant presque 4 ans, j'anime un petit groupe de femmes, hein, un petit groupe de femmes qui luttent avec le péché à caractère sexuel, donc des femmes qui sont tombées dans l'adultère, dans la pornographie, toutes sortes de choses comme ça. Et une des choses que je remarque, c'est souvent les femmes, quand elles arrivent, elles me disent « J'ai tout essayé ». Sauf la confession, sauf la redevabilité, sauf de trouver quelqu'un qui peut m'aider dans le quotidien, une personne envers qui je vais être redevable. Frères et sœurs, peut-être que vous avez excellé. Vous avez une relation avec le Seigneur qui est très forte. Vous êtes un homme ou une femme de prière. Vous êtes plongé dans les Écritures. Peut-être que vous êtes un chrétien qui est assidu à l'Église. Vous venez tous les dimanches. Vous participez dans un petit groupe. Mais ça aussi, c'est une partie essentielle de notre marche avec Dieu, de trouver un frère ou une sœur en qui on peut se confier et avec qui on peut grandir. Jacques nous dira « Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. » Ça fait peur, la confession, mais ça fait partie de notre marche avec Dieu aussi. Et là, je ne vous dis pas d'aller vers n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça prend du discernement dans la prière pour trouver la personne vers qui aller. Ça prend des fois des petits tests pour voir quel genre de personne on a devant nous. Est-ce que j'ai un plat de plastique? Est-ce que j'ai une encre? Est-ce que j'ai une bouée? Ça nous prend des petits tests parfois. Et je dois dire aussi que ces trois catégories-là, c'est des généralités. On peut tous démontrer à un moment ou à un autre différentes caractéristiques dans notre caractère en tant qu'amis. Mais généralement, il y a une dominante, là. Jonadab, tout ce qu'on a connu de lui, c'était qu'il regardait, il faisait rien ou il amenait à s'enfoncer dans le péché. Donc, soit à travers l'action ou à travers la passivité. Une autre phrase qui revient souvent dans les accompagnements de groupe, c'est que si le succès était fait pour être obtenu seul, dans la lutte par rapport à certains péchés, certaines difficultés, tu l'aurais déjà fait. Si tu pouvais y arriver tout seul, tu l'aurais probablement déjà fait. Si tu luttes encore avec quelque chose, s'il y a une souffrance qui est encore sur ton cœur, peut-être que c'est bien de l'avoir adressé avec Dieu, c'est excellent de l'avoir adressé avec Dieu, mais peut-être que tu as besoin d'un frère ou d'une sœur de confiance, d'un leader spirituel qui peut marcher avec toi dans cette difficulté-là. Lorsqu'on cherche à cultiver des amitiés spirituelles profondes aussi, on choisit des personnes, évidemment, qui sont éprouvées. La Bible nous dira « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? » C'est facile de dire, ou la femme fidèle, c'est facile de dire « Ah oui, moi, je suis vraiment un bon ami. » Mais si on vous éprouvait, qu'est-ce qu'on trouverait? C'est facile de dire, est-ce que toi, tu es chrétien? Oui, moi, je suis chrétien. Tu lis ta Bible? Oui, OK. Mais qui vraiment aura cette fidélité-là, cette assiduité-là? On éprouve. Donc, quelques caractéristiques que je vous amène à considérer. C'est qu'une personne qui va vous aider à être un ami spirituel profond pour vous, c'est quelqu'un qui va avoir une attitude de grâce plutôt que de honte. Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si l'ami que vous avez vous amène à vous sentir plus coupable et qu'elle est toujours en train de vous condamner, plutôt que de vous pointer votre péché, il y a quand même un discernement à avoir, parce que parfois, il faut pointer le péché. Il faut questionner. Discrète aussi, donc capable de garder, dire à cet ami-là, tout le bloc appartement est au courant de ce que vous avez dit à cet ami-là, peut-être que ce n'est pas une personne qui est digne de confiance. Quelqu'un qui est engagé à lutter contre le péché dans sa propre vie, et donc, elle est capable de vous aider aussi dans votre vie, parce qu'elle est sur le même chemin que vous. Et finalement, une personne qui est prête à prier avec moi. Et là, je vais vous pointer vers un passage biblique que vous avez sûrement entendu assez souvent. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. « Je vous dis encore que là où deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je me demande pourquoi il n'a pas dit genre 10 ou 15 ou 14. Il nous parle de quelque chose d'intime. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir de la prière intime. Des gens qui vont s'accorder avec vous dans la prière pour la guérison de votre âme, pour la lutte contre le péché. Des gens qui vont être dédiés avec vous. On peut aussi penser à se créer une routine d'échange. Donc, à quelle fréquence vous allez partager? Dans quel contexte? j'ai avec moi des amis avec qui je fais la route depuis un certain temps. Et donc, nous, ce qu'on utilise, c'est WhatsApp. J'ai deux amis comme ça. Je sais qu'elle peut m'envoyer un message vocal à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Je vais essayer de répondre rapidement. Je vais prier avec elle. On essaie de rester en contact au moins une fois par semaine. Peut-être pour vous, ce sera différent. J'ai eu des saisons dans ma vie où c'était à tous les jours. J'ai eu des saisons où c'était un peu plus éloigné. La Bible nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Si vous voulez avoir une relation d'amitié spirituelle profonde, il faudra vous mettre d'accord sur ces détails-là aussi. Est-ce que tu es d'accord pour faire route avec moi, pour m'aider à lutter contre le péché, pour m'aider à trouver la guérison? Comment on va faire ça ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Qu'est-ce qui te convient à toi? Qu'est-ce qui me convient à moi? Mettons-nous d'accord. Et on s'examine soi-même. La parole nous dira ceci dans 2 Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Donc, si vous voulez arriver dans une amitié spirituelle, ça commence par l'introspection aussi. Vous seriez peut-être familier avec Ignace de Loyola, qui a développé les exercices spirituels. Et l'une des choses dont il parle, il est issu de la tradition catholique, mais une des choses dont il parle, c'est la nécessité de chaque jour faire le point avec Dieu. Chaque jour, observer qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Je vous livre les trois points, en fait, qui font partie de ma discipline spirituelle. C'est issu là, de l'ouvrage de Marnie Ferry. Donc, Marnie Ferry, c'est une femme qui vraiment a un ministère auprès des femmes là, qui sont tombées dans le péché sexuel. Et donc, c'est ce que j'utilise aussi dans les groupes de femmes. Et c'est très, très simple. Vous n'avez pas besoin de lutter avec ce type de péché-là. Mais c'est ces trois étapes-là. Donc, premièrement, quelles sont les émotions fortes ou les défis du quotidien auxquels j'ai fait face? Qu'est-ce qui est venu perturber ma journée, soit un moment fort, là, soit négatif, soit positif? Ensuite, comment j'ai investi dans ma croissance spirituelle et dans mon rythme de vie? Comment j'ai pris soin de mon corps, de mes émotions, de mon intelligence, de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour grandir avec Dieu puis pour prendre soin de qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et finalement, quelles sont les tentations ou peut-être même les péchés auxquels j'ai fait face dans ma vie? Et si vous voulez un espace où, d'où partir, c'est ce genre de choses-là qui peut être discuté aussi dans une amitié spirituelle. Trouvez quelqu'un avec qui vous êtes capable de dire, ben, tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, là, j'étais vraiment en colère contre mon mari. Ou quelqu'un à qui vous pouvez dire, ben, tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, je suis allée au travail, puis j'ai été tentée de falsifier mon compte de dépenses. Ou j'invente des choses, là. Mais que vous soyez capable d'avoir cette intimité-là avec ces points concrets-là à discuter avec la personne que vous choisirez. Et ce matin, je pense que l'une des questions auxquelles on peut s'attarder aussi, c'est quel genre d'ami est-ce que moi je suis? Prenez un moment pour nous examiner. Dans votre mariage, si vous êtes marié, est-ce que vous entraînez votre époux ou votre épouse vers le bas, un peu plus loin dans le péché? Est-ce que vous êtes là pour l'aider à faire face aux choses difficiles auxquelles ils ont fait face? Ou est-ce que vous êtes plutôt là comme un plat de plastique? On n'en parle pas, ça n'existe pas, c'est jamais arrivé. Tu t'en fais pour rien. Si vous regardez votre relation avec vos enfants, si vous avez des enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Et peut-être, si vous en avez, avec des amis. Et je dis si vous en avez parce que parfois, c'est une catégorie qui nous manque. Il nous manque ce chiffre-là dans notre code. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez goûter aux richesses célestes. Je voudrais que vous puissiez faire un retrait éternel, hein, goûter à ce que Dieu en réserve pour vous. Engagez-vous avec qui vous vous rassemblez. Vous, dans l'intimité avec Dieu, oui. Trouvez un plus petit groupe de chrétiens avec qui vous vous rassemblez, oui. Mais trouvez un ou une amie spirituelle. avec qui vous allez pouvoir avoir ce genre d'intimité-là. Et je sais que ça fait peur. Je sais que beaucoup d'entre nous, on a peut-être même des appréhensions culturelles, hein, ou des appréhensions de notre histoire de vie où on se dit, ben, les gens ne sont pas dignes de confiance. Mais si vous, vous êtes digne de confiance, il doit y avoir au moins une autre personne pour vous quelque part. Priez, demandez à Dieu d'amener cette personne-là sur votre route. Demandez à Dieu de faire de vous cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Il y a une version de l'histoire où Tamar n'avait pas à vivre désolée dans la maison de son frère. Elle n'est pas à vivre toujours dans la tristesse de ce qui lui était arrivé. Il y a une version de cette histoire-là où elle pouvait goûter à la guérison, à la restauration. Où au lieu de la honte, elle pouvait vivre dans la fierté d'avoir surmonté son épreuve. Où elle pouvait vivre dans la fierté d'avoir même résisté, de ne pas avoir dit « Ah oui, mon frère, c'est une bonne idée, pourquoi pas? » Juste le fait qu'elle ait dit non. Ou qu'elle n'ait pas dit oui, juste le fait qu'elle n'ait pas dit oui, était tout à son honneur. Il y avait une version de cette histoire-là où Absalom prenait soin de sa sœur, où Amnon ne tombait pas dans ce genre de péché-là. Frères et sœurs, que ce ne soit pas votre histoire où vous tombez dans le péché parce que vous n'avez pas de bon conseiller à vos côtés. Parce que vous avez essayé par vous-même, alors que Dieu vous appelait à trouver un allié avec vous dans le corps de Christ. Que ce ne soit pas votre histoire de vivre dans la désolation parce qu'il n'y a pas eu personne pour vous relever. Cherchez, demandez à Dieu de vous aider à trouver quelqu'un qui va être là pour vous aider à vous relever. Et soyez des Tamar, soyez des hommes et des femmes qui résistaient au péché. Soyez des hommes et des femmes qui appelaient les autres à résister au péché, qui prenaient soin des gens qui sont dans la souffrance, qui les aidaient à se relever. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous donne sa grâce. Mon message n'est pas long ce matin. Mais c'est un message qui, j'espère, va nous amener à réfléchir, à prendre un engagement aussi, de dire, moi, je ne ferai pas les choses seule. Je vais rechercher avec l'aide du Seigneur. Je vais peut-être même prendre des risques pour trouver cette personne-là. Je vais donner à Dieu la chance de me bénir à travers un frère ou une sœur. Prions. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui nous appelle. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, dans notre vie personnelle, à trouver un frère ou une sœur qui va pouvoir nous aider à nous relever si on tombe. Si on tombe dans le péché ou si on est chambranlant et on a envie de tomber. Si nos pensées, Seigneur, nous amènent dans une route qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à ne pas nous associer aux gens qui vont nous apprendre à mieux tomber dans le péché. À ces gens-là qui, en fait, n'ont aucunement nos meilleures intentions en tête. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à nous-mêmes ne pas être ce genre de personnes-là. Mais de notre propre lutte avec le péché, de notre propre guérison, que nous puissions amener, Seigneur, à nos frères et sœurs, des pistes de solutions pour sortir du péché, pour trouver la guérison qui est en toi, Père. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être des tamars. Quelle que soit, Seigneur Dieu, la manière dont les gens autour de nous vont avoir reçu nos conseils ou réagi. Seigneur, aide-nous à appeler les autres, Seigneur, à ne pas tomber dans le péché. Et aide-nous, Seigneur, nous-mêmes à sortir de la désolation. Seigneur, merci parce que tu as un plan, Seigneur, pour toutes les victimes, Père. Et tu les honores, Seigneur, en donnant vraiment, En donnant vraiment un espace à leur souffrance, Seigneur, même dans ta parole, Père. Ce que l'homme t'est, Seigneur, toi, tu es capable de le dire à haute voix. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous reçoit. Dans nos déchirures, Père céleste, dans nos blessures et dans nos tentations, même toi, Seigneur, tu ne t'éloignes pas de nous alors qu'on est dans nos tentations, Seigneur. Mais tu désires être à nos côtés. Aide-nous, Seigneur, à être aux côtés de nos frères et de nos sœurs. Et ce matin, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions prendre cet engagement dans nos vies et dire, moi, je vais servir l'Éternel dans ma vie personnelle avec Dieu, dans mes amitiés, dans mes plus petits groupes ou mes plus petits rassemblements de chrétiens dans l'Église. Seigneur, moi, je ne veux pas 3 chiffres sur 4. Je veux accéder à toutes tes bénédictions. Et je sais que j'ai besoin de tous ces éléments-là dans ma vie. Donc, Seigneur, je te prie que nous puissions trouver, Père, être dirigés par ton esprit pour trouver de bonnes personnes. C'est en ton nom que je prie. Amen.